Chapitre 24e. Madame d'Armincourt nous honora de sa présence à souper. Elle me parla beaucoup de la province où l'avait élevée sa nièce, de son bon château qu'il ne fallait réparer qu'une fois par an, de ses beaux biens que son concierge faisait valoir, de ce concierge qu'elle nous donna pour le premier homme du monde, et qui, soit dit sans offenser personne, me parut être celui de ces gens qu'elle connaissait le mieux. Je crois qu'il eût été question du bon André jusqu'au lendemain matin, mais à minuit passé, la voiture du comte se fit entendre. « Il vient de m'arriver l'aventure du monde la plus désagréable !» cria M. de Lignolles en entrant. « Vous savez bien, ma belle charade !»« Monsieur, » interrompit la comtesse, « voici Madame la marquise d'Armincourt, ma tante. » Le comte, un peu surpris, commença pour la marquise un long compliment qu'elle n'écouta pas jusqu'au bout. « Bonsoir, » dit-elle brusquement à sa nièce. « Bonsoir, ma chère. Demain, je reviendrai de bonne heure. Demain, j'espère qu'enfin, je souhaiterai le bonjour à Madame la comtesse de Lignolles. »« Adieu, monsieur, » dit-elle sèchement à Monsieur de Lignolles. Elle lui fit en sortant une de ces révérences froides que les femmes réservent pour certains hommes qu'elles n'estiment point. « Vous savez bien, ma belle charade, » reprit le comte dès qu'elle fut partie. « Mademoiselle de Brumont, » interrompit la comtesse, « faites-moi le plaisir de vous retirer chez vous. » J'obéis sans répondre, mais je restais collé derrière ma porte et prêtant l'oreille avec la plus grande attention. « Vous savez bien, ma belle charade, » reprit encore M. de Lignolles. Madame l'interrompit de nouveau. « Il ne s'agit pas de cela, monsieur. On ne se marie pas pour faire des charades, mais pour faire des enfants. « Comment, madame ? Comment ? Si ma tante et mademoiselle de Brumont ne m'avaient pas instruite, je serais donc restée fille ?»« Madame, vous ne m'entendez pas. Je savais tout comme un autre, quel devoir. Vous le saviez, monsieur. Si vous le saviez, pourquoi ne le faisiez-vous pas ? Il est donc vrai que vous me trouviez laide ? Il est donc vrai que depuis 2 mois je suis l'objet de vos mépris. Où allez-vous, monsieur ?» J'entendis Madame de Lignolles courir à la porte et la fermer. « Vous ne sortirez pas d'ici, monsieur, que vous n'ayez réparé vos outrages. »« Mes outrages ?»« Oui, vos outrages. Je sais tout, monsieur. En ne m'épousant pas, vous m'avez insulté. Mais vous m'épouserez tout à l'heure. Si tout ce qu'on m'a dit est vrai, ce n'est pas un grand mal pour vous, j'espère. Au reste, c'est votre devoir. » Qu'il vous soit agréable ou non, remplissez-le. Je le veux et je vous l'ordonne. Mais, madame, point de mais, monsieur. Je vous trouve encore bien impertinent. Croyez-vous que je ne vous vaille pas? On vous donnera une femme jeune et jolie pour lui faire des charades. Vous me ferez un enfant, monsieur. Vous m'en ferez un. Vous me le ferez. Vous me le ferez tout à l'heure. Tout à l'heure. Ici, là, à cette place. La comtesse venait de le prendre par la main et de le conduire derrière les rideaux. À travers le trou de ma serrure, je voyais. Quel personnage je fais là, cependant! Que le rôle d'observateur est en ce cas humiliant et pénible. Ah, tante bavarde autant que maudite, pourquoi n'avez-vous pas voulu vous en aller plus tôt? Eh bien, chevalier, qu'est-ce donc que tu dis à toi-même? Quoi? Tu désespères de ta fortune? Bah, mon ami, rassure-toi. Ton génie protecteur ne t'abandonne pas. Va! Faublas n'est pas fait pour remplir, dans une aventure bizarre et galante, un emploi subalterne. Écoute ce que dit la comtesse et fais un saut de joie. Pardon, monsieur. Peut-être que j'ai tort, peut-être qu'en effet ma tante et mademoiselle de Brumont ne m'ont voulu faire qu'une mauvaise plaisanterie. Je comptais vous inviter à passer chez moi la nuit entière. Mais vous prendriez, je le vois, bien des peines inutiles. Je crois que c'est vous rendre service que de vous engager à vous retirer dans votre appartement. Madame, je vous demande le secret. J'espère qu'une autre fois je serai plus heureux. Une autre fois? Reste à savoir si je voudrais. Madame, dans tous les cas, je compte sur votre discrétion. Monsieur, je ne promets rien. Madame. Monsieur, je vous prie de me laisser libre. Elle venait d'ouvrir la porte qu'elle referma dès qu'il fut dehors. Aussitôt, je sortis de ma chambre et volai dans la sienne. « Ah, madame, que je suis aise !»« Pourquoi donc cette folle joie ? » interrompit-elle. « Madame, vous ne pouvez concevoir. Mademoiselle !» interrompit-elle encore du ton le plus sérieux. « Si vous pouviez vous faire une juste idée de ce que c'est que M. de Lignolles, vous sauriez qu'entre lui et moi tout à l'heure, il n'a plus rien se passer dont on doive se réjouir et me féliciter. »« Rien dont je doive me réjouir, madame ?» Que diriez-vous si je vous avouais que c'est votre peine qui fait ma joie ? ce que je dirais, mademoiselle. Que diriez-vous si je vous apprenais que le sort toujours juste a conduit chez vous un vengeur? Un vengeur. Si je vous déclarais que vous voyez à vos pieds un jeune homme qui vous aime, qui m'aime, un jeune homme plein de tendresse pour vous et d'admiration pour vos charmes. Vous êtes un jeune homme et vous m'aimez. Ah, ce n'est pas l'amour, c'est... Mademoiselle de Brumont, êtes-vous bien sûre d'être un jeune homme? Jolie comtesse, en vérité, je ne puis avoir là-dessus aucune espèce de doute. Eh bien, venez, venez, vengez-moi, épousez-moi tout de suite. Je le veux, je l'ordonne. Ah, vous n'avez pas besoin de me l'ordonner, charmante Éléonore, je ne demande pas mieux. Elle avait raison d'être fâchée contre son mari. J'avais raison d'être content de M. de Lignolles. Ce M. de Lignolles avait si peu fait que tout me restait à faire. Victoire la plus douce de toutes. Il faut rendre justice à la présence d'esprit de la comtesse. Aussitôt que la parole lui fut revenue, elle me demanda qui j'étais. Préparée à cette question toute simple, qu'une femme moins vive m'eût sans doute adressée plus tôt, je ne vis pas attendre la réponse. Charmante Éléonore, on m'appelle le chevalier de Flourvac. Mes parents, injustes, uniquement jaloux d'assurer une grande fortune à mon aîné barbare, m'ont voulu forcer à me faire Génovéfin. Ils voulaient vous faire moine ? S'écria-t-elle. Mais vous n'auriez jamais épousé personne. Oh, que c'eût été dommage ! Aussi, ma jeune amie, quelque chose me disait sans cesse que je n'avais pas la moindre vocation pour ce métier-là. Assurément, je ne devinais pas que le destin propice me réservait l'avantage peu commun de consommer un mariage qui ne serait pas le mien. Mais je sentais confusément que j'étais né pour épouser. Je me suis donc échappé du couvent où on me tenait enfermé. Mon ami, le vicomte de Valbrun, indigné de la lâcheté de mon frère et de la cruauté de mes parents, m'a recueilli, m'a conseillé ce déguisement, m'a fait chercher un asile plus sûr que sa maison. Et chaque jour, je rendrai grâce au hasard favorable qui m'a conduit auprès d'une femme jeune, jolie et vierge. Le sort ne m'a pas favorisé moins que toi, mon cher Flourvac, répondit la comtesse en m'embrassant. Tu me tiendras compagnie jusqu'à ce que tes parents soient morts. Quel engagement vous prenez là, ma chère Éléonore? Mon père est encore jeune. Tant mieux, mon ami. Nous demeurerons ensemble plus longtemps. Reste avec moi jusqu'à ce que tous vos parents soient morts. Restez, Flourvac, je le veux. Pendant que je faisais à Madame de Lignolles l'indispensable mensonge que vous venez de lire, je l'aidais à dépouiller des vêtements incommodes dont je ne l'avais pas débarrassée d'abord, tant elle m'avait paru pressée d'être vengée, tant j'avais jugé convenable la prompte exécution de ses ordres formels. À présent, lecteur, parlez sans déguisement. N'auriez-vous pas quelque envie de prendre ma place auprès de la comtesse, dans le lit nuptial où je suis avec elle? Le jour ne devait pas tarder à paraître, quand tous deux, enfin, lassés, nous nous endormîmes. Lorsque je me réveillais, ma montre marquait midi. Grand Dieu! Monsieur de Valbrun m'attend-il patiemment depuis 8 heures du matin? Je quittai sans bruit la comtesse qui dormait profondément. Et, presque nu que j'étais, je courus à ma chambre. J'ouvris la petite porte de l'escalier. Je ne vis personne. Oh, ma Sophie! Heureusement, je vis dans ma serrure un petit papier qui débordait. Le vicomte, avec un crayon rouge, avait griffonné ces mots que j'eus beaucoup de peine à déchiffrer. « Je frappe et vous ne répondez pas. Où êtes-vous, mademoiselle de Brumont? Que faites-vous? Je n'en sais rien, mais je devine. Quelle agréable nouvelle je vais porter à la baronne. À 2 heures, je reviendrai. Madame la comtesse sera-t-elle levée à 2 heures ?» Je réveillai ma jeune amie en reprenant ma place auprès d'elle. Le regard qu'elle me lança me parut encore plus vif que tendre. J'eus lieu de croire que la douce caresse dont elle l'accompagnait n'était pas tout à fait désintéressée. J'entendis avec de fréquents soupirs quelques mots à demi prononcés. Tout cela, suivant moi, voulait dire que mon écolière attendait sa dernière leçon. Qui de vous, messieurs, l'eût refusée, pouvant la donner encore? Je la donnai donc, lorsqu'on frappa rudement à la porte de la chambre à coucher. Je quittai brusquement le poste que j'occupais et je me préparais à sortir du lit de la comtesse. Mais elle me fit signe de rester à ses côtés, et d'une voix ferme, elle demanda « Qui va là ?»«
C'est moi, » répondit M. de Lignolles. « Ne vous levez-vous pas aujourd'hui ?»«
Pas encore, monsieur. »
« Il est tard, cependant, madame. »«
Oui, monsieur, mais je suis occupé. »«
À quoi, madame ?»«
Monsieur, je compose. »«
Qui vous apprend à composer ?»«
Mademoiselle de Brumont. »«
Je voudrais bien assister à la leçon. » »«
Cela ne se peut pas, monsieur. »«
Vous ne feriez sûrement rien. » »«
Et vous nous empêcheriez de faire quelque chose. » »«
Et que faites-vous donc, madame ?»«
Des enfants qu'on puisse croire les vôtres, monsieur. »«
Que voulez-vous dire ?»«
Que je finis une charade. »
Une charade, voyons donc.
Vous avez envie de chercher le mot ?
Oui, vraiment.
Eh bien, attendez une minute.
Voici, me dit-elle tout bas, l'instant d'une vengeance complète. Je veux lui faire une malice, dont le souvenir puisse, dans 50 ans encore, amuser ma vieillesse. Elle ne m'en dit pas davantage, mais un regard, un geste, un baiser. Docile avec plaisir, j'obéis sans me permettre la plus légère observation. Alors, pour me prouver, après Coralie, que plus d'une femme sachant, dans un moment critique, embrasser à la fois plusieurs occupations difficiles, peut en même temps très conséquemment agir et très distinctement parler, Madame de Lignolles éleva la voix et dit au comte « Monsieur, écoutez-vous à la porte.
Il le faut bien, madame, puisque vous ne voulez pas m'ouvrir.
Bon, voici ma charade. »
Amo il primo mio,
piano affoblas abbracciandolo,
l'amo di molto.
Amo il primo mio, ridisse il lignolo.
Signor si, soggiunese ella.
Mamma il secondo mio,
piano affoblas.
Mammi, ah mammi, è vero.
Non risposi, ma la baciai terenamente, mentre che il gnognolo con grandissima attenzione rigideva.
Mamma il secondo mio.
Bravo, signor, disse la contessina, è il mio integrale.
Benché condotto da due, non di meno fa più che uno.
Piano affoblas.
De non ella, la verità?
La verità, ben mio.
Ma disse l'ignolo, dunque in prosa lo fate?
Signor, si in pro, stavolta sulle labbra del svenuta, la parola mori.
Cependant, elle eut tout le temps de reprendre ses esprits avant que son mari, qui voulait absolument deviner, eût cessé de répéter « Mon tout, quoique formé de deux personnes, ne fait qu'un. »
« Monsieur, reprit la jeune écervelée, plus contente que si elle eût fait un poème épique et une bonne action, je dois en conscience vous prévenir d'une chose essentielle, c'est que ma charade est une espèce d'énigme qui a deux mots. Je vous déclare d'avance que je ne vous les dirai jamais, et je crois que vous ne les devinerez pas. »
« Je ne les devinerai pas.
Ah, je vais m'enfermer dans mon cabinet, et je descends dans une demi-heure. »
« Dans une demi-heure, soit, je serai levé. »
Il revint effectivement une demi-heure après. Assis à côté de la comtesse, je prenais dans son boudoir une grande tasse de chocolat, que cette fois j'avais demandé sans façon.
« Mesdames, vous savez bien ma plus belle charade, » dit M. Lignolles en entrant. « Hier, on l'a critiquée, on l'a critiquée. »«
Mademoiselle de Brumont, auriez-vous cru cela ?»
Le bruit d'une voiture qui entrait dans la cour interrompit le comte. Un laquais vint annoncer Madame la marquise d'Armincourt. Elle entra précipitamment, fut droit à sa nièce et lui dit « Eh bien, mon cher cœur, comment te sens-tu aujourd'hui? Y a-t-il quelque changement ?»«
Ah ! Petite friponne, je vous trouve l'air fatiguée. Vous avez les yeux battus.
Ah non, c'est une affaire finie. Je m'y connais, je m'y connais. Je t'en félicite de toute mon âme, ma petite.
Et vous, monsieur le comte, recevez mon compliment. Faisons la paix, embrassons-nous.
Allons, mes enfants, courage. Un petit neveu dans 9 mois.
Un petit neveu dans 9 mois, répéta la comtesse. Cela se pourrait bien, vous avez raison. Mais souhaitez donc le bonjour à mademoiselle de Brumont.
Tandis que la marquise s'occupait de moi, je vis M. de Lignolles se pencher à l'oreille de la comtesse. Tout en paraissant écouter la tante, j'écoutais le mari. Il disait à sa femme
« Madame, épargnez-moi, laissez à la marquise une erreur.
Quoi donc, monsieur ? »
Interrompit-elle. « N'êtes-vous pas content de moi ? »
« Au contraire, madame, je vous rends grâce de votre discrétion.
Et vous avez tort, monsieur. Elle est naturelle et nécessaire. Vous ne me devez aucun remerciement pour cela. »
Monsieur de Lignolles, bien rassuré, vint à moi.
« À propos, mademoiselle, me dit-il, je vous rends grâce. Vous voulez bien enseigner à la comtesse des choses difficiles ?»«
Difficiles, mais non, monsieur le comte. »«
Oh, que si, mademoiselle, je sais trop ce que c'est. Et je suis vraiment sensible à votre complaisance. »
Après ces politesses réciproques, la conversation devint générale et, de part et d'autre, il ne fut rien dit qui mérite d'être rapporté. Mais à 2 heures, on vint m'annoncer que quelqu'un me demandait.
« Qu'on fasse entrer, » dit la comtesse.
Je lui représentai qu'apparemment c'était monsieur de Valbrun.
« Eh bien, » répéta-t-elle, « qu'il vous parle ici. »«
Cela ne se peut guère, madame. »«
Allez donc chez vous, mais ne tardez pas à revenir. »
Je courus à ma petite porte.
« Bonjour, monsieur le vicomte. »
« Bonjour, monsieur le chevalier. »«
Eh bien, la lettre à ma sœur,
je l'ai fait porter au couvent. »«
Celle à mon père, c'est moi-même qui l'ai mise hier à la poste. » »«
Et ma Sophie ?»«
La baronne ne l'a pas vue, mais une chambre est retenue pour vous dans le couvent que vous avez indiqué. »«
Partons, vicomte, partons. »«
Comment partons ?»«
Oui, tout à l'heure. »«
Ne sommes-nous pas convenus d'attendre ?»«
Je n'attends pas un moment. »«
Mais songez donc, je ne songe à rien. »
« Au péril,
je n'en connais plus. Oh, ma Sophie, je différerai d'un jour le bonheur de te voir. »
« Cependant, il faut différer. »
« Vicomte, si vous ne voulez pas m'y conduire, j'irai seul. »
« Mais j'irai seul.
Plutôt périr 100 fois que de ne pas la voir aujourd'hui. »
« Chevalier de Faublas et la comtesse. »
« De quoi me parlez-vous? Qu'est-ce que la comtesse quand il s'agit de Sophie? Et vos ennemis?
Je les défie tous. »
Ainsi, nulle considération ne peut plus vous arrêter.
Nulle considération, monsieur le vicomte.
Et je vous le répète, si vous m'abandonnez, je pars seul.
Vicomte, la reconnaissance que je vous dois n'en sera point altérée.
Puisque rien ne peut changer vos résolutions, je me rends. Mais je vous demande une grâce.
Parlez et croyez.
Attendez au moins jusqu'à la nuit.
Jusqu'à la nuit?
Écoutez-moi. Dans 1 quart d'heure, je dîne avec la baronne. À 6 heures du soir, je l'amène ici. Dès que vous la verrez entrer chez la comtesse, soyez sûr que mon carrosse vous attend à la porte. Descendez alors par ce petit escalier, venez me joindre, et vous serez bien accompagné jusqu'au couvent, je vous le promets.
À 6 heures précises, vicomte.
Chevalier, je vous en donne ma parole.
Au moment où monsieur de Valbrun me disait adieu, la comtesse venait elle-même me chercher.
L'aimable enfant, trop abusé, se crut sans doute l'objet de la profonde rêverie dans laquelle on me vit plonger pendant tout le dîner, qui me parut long.
Oh, ma Sophie!
Faut-il vous dire que, seule et sans distraction, vous occupiez alors mon cœur et ma pensée? Après le dessert, cependant, en prenant le café dans le salon, je fixai plusieurs fois la jeune Lignolles, et toujours mes yeux rencontrèrent les siens. Mes regards enfin s'arrêtèrent volontairement sur tant d'appât. Que de vivacité, que de fraîcheur, la belle peau, la jolie bouche. Ah, charmante petite femme, vous ne méritez pas d'être abandonnée le lendemain de vos noces. J'approchai de la comtesse, et me penchant à son oreille, je lui dis bien bas. Ne pourrais-je un instant, ma jeune amie, vous entretenir seule au boudoir?
Madame de Lignolles se leva.
Madame la marquise, dit-elle à sa tante, permet-elle que je la quitte pour un moment?
Oui, oui, répondit madame d'Armincourt.
« Je n'ignore pas que les jeunes femmes ont toujours... »«
Bon, savez-vous ce que ces dames vont faire ?»
interrompit le comte avec un rire presque moqueur. « Une charade en prose. »«
Eh, monsieur, » répliqua la comtesse,
« quelle ironique joie !»«
Que d'amertume !»«
Je ne défends pas notre ouvrage, il nous a si peu coûté. » »«
Mais quiconque est également incapable de nous deviner et de faire comme nous n'a pas, ce me semble... » le droit de se fâcher ni de s'égayer à nos dépens.
À ces mots, elle me conduisit dans son boudoir, la maligne comtesse, et quoique nous n'y fussions pas restés longtemps, la charade était faite quand nous en sortîmes.
Cependant, mes vœux hâtaient la fin du jour, et la nuit tardait beaucoup à venir.
Elle vint. Je tressaillis de joie. On annonça la baronne. Je pensais me trouver mal. Mes jambes me soutenaient à peine. J'eus à peine la force de faire à ma protectrice une inclination légère.
Mais aussitôt que cette extrême agitation fut calmée, je pris le chemin de ma chambre. je m'étais flatté que la comtesse, qui faisait à la baronne les premiers compliments, ne s'apercevrait pas de mon évasion. Mais aucun des mouvements de l'objet chéri n'échappa à l'œil vigilant d'une amante. Madame de Lignolles me vit sortir et s'écria « Vous partez, mademoiselle de Brumont ?»« Oui, madame. Mais vous allez revenir, j'espère. »« Oui, madame. Je reviendrai, oui, madame, le plus tôt possible. » J'avoue que ma voix était entrecoupée. J'avoue que je tremblais en lui adressant ce fatal adieu, pauvre petite. Je traversai son appartement et ma chambre, je descendis rapidement l'escalier dérobé, je franchis le seuil de la porte cochère, je me précipitai dans la voiture du vicomte. 5 minutes après, j'arrive au couvent, à cet asile désiré. Une religieuse m'ouvre la porte et me demande qui je suis. « La veuve Grandval. Je vais vous conduire à votre chambre, ma sœur. »« Non, ma sœur. Dites-moi où sont maintenant rassemblées toutes vos pensionnaires. »« Au salut, ma sœur. »« Où, dit-on, le salut ?»« Mais dans la chapelle. »« Et la chapelle ?»« Est devant vous. » Je courus à la chapelle, et mon coup d'œil inquiet en embrassa toute l'étendue. Beaucoup de femmes sont en prière. Une d'entre elles se distingue par son recueillement plus profond. Mon cœur s'est ému, mon cœur palpite. Voilà ses longs cheveux bruns, sa taille légère, ses grâces enchanteresses. Je fais quelques pas. Je la vois. Grand Dieu ! Phoblas, heureux époux, maîtrisez la violence de ce premier transport. Allez doucement vous mettre à genoux tout à côté d'elle. Madame de Phoblas était si préoccupée qu'elle ne s'aperçut pas qu'une étrangère venait de prendre place à ses côtés. J'écoutais la fervente prière qu'elle adressait au ciel. « Grand Dieu, disait-elle, il est vrai que je fus sa coupable amante, mais tu m'as permis de devenir sa légitime épouse. Je croyais qu'une longue absence avait assez puni la faiblesse d'un moment. Si pourtant ta justice n'est pas fléchie, si dans l'auguste sévérité de tes jugements, tu as décidé que mon crime ne pouvait s'expier que par une éternelle séparation. Dieu puissant, Dieu de bonté, qui te plaît à faire éclater jusque dans les châtiments ta miséricorde infinie, souviens-toi que je suis mortel. Hâte-toi de frapper, prends ma vie. Un prompt trépas sera pour la victime un signalé bienfait. Et si tu daignes combler son dernier vœu, tu permettras qu'à son heure suprême, elle entrevoie encore son époux une fois. Une fois seulement, tu permettras que Phoblas ferme sa mourante paupière et reçoive son dernier soupir. » J'entendis sa prière. Mon premier mouvement fut de se précipiter devant elle et de lui montrer son époux. Je conservais pourtant assez de présence d'esprit pour sentir qu'un éclat nous perdrait, et assez de courage pour modérer mon impatience et retenir ma joie. En attendant que l'office fût dit et que je pusse me découvrir à Sophie, quand elle serait seule, je m'enivrais du bonheur de l'admirer. Le salut vient de finir. Sophie se lève et ne me voit seulement pas, parce que, tout entière à sa douleur, elle ne voit aucun des objets qui l'environnent. Je règle mes pas sur les siens et je la suis lentement par derrière. Elle vient de sortir de la chapelle et va traverser la cour. Au moment où j'y mets le pied, plusieurs hommes, tout à coup sortis de la retraite qui les cachait, m'entourent et se jettent sur moi. La surprise et l'effroi m'arrachent un cri terrible qui va retentir aux oreilles de Sophie. Mon amante a reconnu ma voix. Elle se retourne, trop tôt sans doute, puisqu'elle peut encore m'apercevoir. Moi-même, je l'entends m'adresser une plainte inutile. Je la vois me tendre les bras, je la vois tomber au milieu des femmes effrayées qui l'environnent. Hélas, où sont mes armes? Où sont mes amis? Les barbares satellites m'accablent de leur nombre, ils m'entraînent loin de ma femme, loin de ma femme évanouie. Dieu cruel, impitoyable Dieu, aurais-tu reçu la prière que tout à l'heure elle t'adressait? Vains emportements d'une fureur impuissante, rien ne peut me sauver. Elles viennent de se rouvrir les portes de ce couvent où je suis si témérairement entré. On m'a jeté dans une voiture qui soudain part et ne roule pas fort longtemps. J'entends d'immenses portes crier sur d'énormes gonds, je vois un château fort, le pont-levis s'abaisse devant moi, j'entre dans une grosse tour, des militaires décorés m'y reçoivent, hélas, je suis à la Bastille !